Le titre n'a pas changé, mais enfin j'aurais pu tout aussi bien l'inverser hein, et mettre l'affaire judiciaire à l'épreuve de l'imaginaire social. Merci pour ce beau colloque hein, sur une notion complexe et sur laquelle, en effet, nous nous posons beaucoup de questions. Et je pense que, de toute façon, je n'ai pas la prétention de répondre aux questions que je posais tout à l'heure.
C'est ça pour la conclusion.
En tout cas, je suis contente d'avoir l'occasion de m'exprimer sur cette notion qui est centrale dans mes travaux. Alors, je parlerai moins bien de moi que ne l'a fait Dominique, c'est-à-dire de manière moins englobante. Et je pense que mon intervention sera peut-être un peu plus, un peu plus technique sur la manière dont je... sur la manière dont je l'utilise. Alors, je vais m'appuyer sur mes travaux, sur les affaires judiciaires, et en particulier sur l'affaire Violette Nouzière, sur laquelle, en effet, j'ai consacré un livre qui est sorti il y a une semaine. Cette affaire est connue, en partie grâce à l'intérêt que lui ont manifesté les poètes surréalistes ou encore le cinéaste Claude Chabrol. De quelques éléments, un soir de l'été 1933, une jeune fille, Violette Nouzière, empoisonne ses parents avec un barbiturique et seule sa mère survit au drame. Au départ, l'enquête se concentre sur une jeune dévoyée, avide de plaisir, d'indépendance et d'argent, qui a un amant qui s'appelle Jean et qui a aussi des relations sexuelles multiples et éphémères. Puis, l'affaire prend l'allure d'une tragédie moderne qui couple parricide et inceste quand, 8 jours après, Violette Nouzière accuse d'inceste son défunt père devant le juge d'instruction. L'instruction va durer 4 mois, à la suite de quoi Violette Nouzière est jugée et condamnée à mort. Mais avant de développer un peu plus sur cette affaire, je voudrais revenir sur la notion d'imaginaire social elle-même et sur la manière dont je la conçois. Je considère l'imaginaire social comme une fabrique de représentation du monde social. Je préfère le mot « fabrique » à celui de « répertoire », qui est souvent utilisé hein, par les quelques historiens qui ont donné une définition de l'imaginaire social, mais ce terme de répertoire, à mon sens, est plus statique. Au contraire, l'imaginaire social évoque pour moi fondamentalement une réalité dynamique, et c'est la différence que je vois aussi avec la notion de représentation, qui est plus plate. L'imaginaire n'est pas seulement pour moi ce que les dictionnaires de langue définissent comme le domaine ou le produit de l'imagination, dans la mesure où j'intègre au contenu de l'imagination la dimension créatrice de celle-ci. Les représentations de l'imaginaire social, loin d'être juxtaposées comme dans un répertoire, se donnent en un système cohérent, c'est-à-dire qu'elles sont reliées et fonctionnent ensemble, formant des réseaux d'images, de figures, de fictions. Ces représentations sont évolutives parce que leurs contenus sont conjugués aux problèmes, enjeux et anxiétés successifs, qui travaillent les sociétés, et elles sont agissantes parce qu'elles pèsent sur la manière dont les acteurs sociaux donnent du sens à ce qui advient et agissent dans la société. L'imaginaire social est donc à double titre objet d'histoire, invitant l'historien à cerner son efficacité et à explorer sa profondeur temporelle en démêlant les temps hétérogènes qu'il mobilise, faisant du neuf avec du vieux, rechargeant l'archétypal avec le conjoncturel. Plus qu'une sédimentation de couches, c'est une image qu'affectionne Alain Corbin, il y a plutôt entremêlement, réactivation, et mutations constantes. Si je parle plus volontiers d'imaginaire social que d'imaginaire sociaux, ce n'est pas que j'ignore la pluralité des imaginaires sociaux. L'imaginaire social est toujours un imaginaire d'eux, mais c'est pour souligner la nécessité de prendre en compte dans l'analyse le mode de fonctionnement de l'imaginaire social, c'est-à-dire les logiques associatives qui gouverne la cristallisation et la circulation des motifs. Déchiffrer historiquement l'imaginaire social implique, à mon sens, de prêter attention au jeu des comparaisons, transpositions, analogies, assimilations, au travail symbolique, métaphorique et métonymique qui façonne la matière plastique de l'imaginaire social et produisent sans cesse des combinaisons inédites. Comme dans une fabrique, il y a tout un travail de transformation d'une matière première, un peu au sens où Bachelard décrivait l'imagination comme une faculté moins de formation que de déformation des images. Prendre en compte la plasticité de l'imaginaire social, c'est traquer ce travail associatif dans une dimension verticale, la profondeur temporelle, mais aussi dans une dimension horizontale qui permet à l'étude de l'imaginaire social de dépasser les découpages sectoriels de l'historiographie. Si l'imaginaire social est social, au sens où il a pour objet acteurs, groupes, sociaux, ordre social, les logiques symboliques qui font coaguler ces matériaux naviguent entre les différents domaines de la réalité historique. Étudier l'imaginaire social, c'est prendre ensemble le culturel, le social, l'économique, le politique, ou pour le dire autrement, c'est asseoir une approche historique pour laquelle le culturel est la dimension la plus essentielle ou englobante de l'histoire, ou alors on pourrait dire, c'est se convaincre de ce que disait Lucien Febvre, il n'y a pas d'histoire économique et sociale, il n'y a pas d'histoire culturelle, il y a l'histoire tout court, dans son unité. Mes travaux proposent, me semble-t-il, une manière d'aborder ce monde de représentation en historien, sans se perdre dans l'abstraction, et d'y observer les logiques à l'œuvre. Au lieu de prendre pour étude un imaginaire d'eux, ils prennent pour objet l'imaginaire social, mais en choisissant une porte d'entrée que j'ai trouvée avec l'affaire judiciaire. Mon approche relève donc de la micro-histoire, que je considère comme une manière de faire de l'histoire particulièrement efficace pour accéder au travail de l'imaginaire social et à sa dynamique. Restreindre la focale sur un objet thématiquement cohérent et resserré dans le temps permet à la fois d'étudier ensemble ce que la macro-analyse sépare et de plonger dans la profondeur temporelle. Le crime de Violette Nozière est comme le rameau d'arbre évoqué naguère par Stendhal, qui est tombé dans les mines de sel et que l'on ressort au bout d'un certain temps, je cite, « couvert de cristallisations brillantes ». Ces cristallisations qui miroitent dans la tranchée ouverte par l'analyse micro-historique au cœur des années 1930, eh ben c'est ça, pour moi, l'imaginaire social. Mais prendre l'affaire judiciaire comme un instrument d'exploration de l'imaginaire social implique de redéfinir l'objet « affaire judiciaire » sans le restreindre à un crime et à ses développements policiers et judiciaires, mais en y voyant plus largement le crime, sa réception et son interprétation par la société. Ce qui implique d'écouter tous ceux qui ont eu quelque chose à dire sur le crime. Leur voix, l'historien peut les entendre dans un vaste ensemble d'imprimés qui est dominé par la presse, qui est ici une source fondamentale parce qu'on met tout à la fois, elle diffuse, elle produit et elle nourrit les discours sociaux sur le crime. On peut les trouver aussi dans le dossier d'instruction, qui est une source polyphonique qui rassemble les discours pluriels générés au cours du procès pénal. Et je signalerai un sous-ensemble d'archives qui est particulièrement riche, qui est constitué par quelque chose comme 250 lettres qui ont été adressées à la justice par toutes sortes d'individus qui s'intéressaient à l'affaire, essentiellement des quidam, dont la plume, et finalement elle est d'autant plus déliée que l'identité du scripteur est protégée par l'anonymat. Pour une étude de l'imaginaire social, elles sont au moins autant précieuses que les chroniques d'E.G. O'London ou que les poèmes d'André Breton. On y voit les individus brodés sur les éléments de l'enquête, des micro-scénarios interprétatifs à partir de la presse ou de leur expérience personnelle et exprimer des fantasmes que le crime fait lever. Bref, l'affaire judiciaire est une histoire que chacun raconte à sa façon et une boîte de Pandore qui libère des histoires qui prolifèrent, se concurrencent, se contaminent les unes les autres. Comprendre le retentissement et l'épaisseur sociale d'une affaire passe par le repérage de ces fictions porteuses de sens qui circulent d'un support à l'autre avec leurs personnages, leurs décors et leurs intrigues, et par la reconstitution de leur émergence, de leur cheminement et de leurs interrelations et reformulations successives. Je prendrai, pour me faire comprendre, l'exemple de la thèse selon laquelle Violette Nozière a eu un complice pour exécuter son crime. Cette thèse, qui est démentie par un intéressé et qui sera finalement écartée par le juge d'instruction, prospère dans un jeu triangulaire entre enquête judiciaire, articles de presse et lettres envoyées à la justice. Les soupçons se portent sur divers individus selon des logiques de représentation distinctes. L'inscription du motif des amants criminels dans l'imaginaire du crime pousse à soupçonner aussitôt Jean, l'amant attitré. La crispation identitaire des temps de crise et le racisme ambiant conduisent aussi à dénoncer Atlan, un partenaire sexuel récent de la jeune fille qui est d'origine nord-africaine. Et de multiples lettres le peignent en dangereux souteneur et en trafiquant de drogue. Enfin, l'imaginaire du poison, dont le pharmacien est une figure classique, nourrit aussi la fiction d'un préparateur en pharmacie impliqué dans le crime. Les archives de la préfecture de police permettent de situer l'origine de cette fiction dans une lettre anonyme envoyée au journal Le Petit Parisien évoquant un préparateur intime de Violette. Emmanuel Jacob, le journaliste en charge de l'affaire Nozière au journal, communique alors le tuyau au brigadier Gripois, qui est chargé de l'enquête, et le brigadier se lance sur cette piste. Alors, la presse annonce que la police recherche un préparateur en pharmacie. À partir de là, articles de presse et lettres anonymes s'emballent et s'alimentent mutuellement pour élaborer une fiction qui, en aimantant différents détails biographiques qui ont été divulgués par l'enquête, évoque des rendez-vous mystérieux dans une brasserie, dans une boîte de Montmartre ou sur un hippodrome. Une lettre qui fusionne Atlan et la figure du préparateur dénonce un pharmacien nord-africain. Le visage du... Et en fait, c'est intéressant de voir que le visage du complice change au gré des associations qui s'opèrent entre les différents acteurs du drame. Le complice, avec ses lunettes en écaille, ressemble à Jean. Grand, brun et autoritaire, il ressemble à Atlan. Le préparateur est concurrencé par une autre figure, celle de l'homme du milieu, parce que la rumeur se répand que Violette avait un souteneur. L'individu, affirme-t-on, est un Nord-Africain, et l'on soupçonne Atlan, avant qu'un journaliste de Paris Soir, qui a reçu une note transmise par un de ses informateurs, ne sorte une autre hypothèse, celle d'un Corse, je cite, « mystérieux et redoutable ». L'ombre du crime organisé, dont les mœurs et les acteurs sont en train de s'inscrire dans l'imaginaire urbain, contamine l'hypothèse du complice. Mais les deux personnages du préparateur en pharmacie et de l'homme du milieu se distinguent mal dans les récits. Il faut dire que l'un et l'autre font circuler des produits prohibés, que ce soit le poison ou la cocaïne. Ces différents éléments cristallisent autour de la fiction d'une parricide hypnotisée, qui rouvre un débat vieux de 50 ans sur la possibilité de tuer en état d'hypnose. Des camarades de Violette, des journalistes et même un fakir expliquent que Violette était particulièrement réceptive à la suggestion. Bon, l'identité de l'hypnotiseur reste dans le flou. Peut-être un camarade du quartier latin, peut-être Atlan, peut-être le préparateur. Ces fictions de la complicité ont pour fonction de résoudre la difficulté qui consiste à expliquer le grand crime d'une jeune fille. Alors que ce parricide contrevient aux représentations de genre qui réservent l'assassinat aux hommes et la complicité aux femmes instigatrices, la figure d'un complice tout-puissant, qu'il soit séducteur, souteneur ou médium, permet de concilier l'acte de tuer et le stéréotype de la passivité féminine. Ces fictions, finalement, contribuent à penser un homicide proprement féminin et contribuent à rendre compte du crime hors norme, justement, en replaçant son auteur dans la norme du genre. Étudier une affaire sous l'angle de l'imaginaire social, c'est aussi mettre en relation son retentissement avec l'imaginaire criminel qu'elle mobilise. En administrant à ses parents un breuvage mortifère, Violette Nozière a cristallisé tout un imaginaire dont la richesse et le pouvoir de fascination sont en fait sans rapport avec le caractère tout à fait résiduel de l'empoisonnement dans l'entre-deux-guerres. Aussi vieux que le monde, ou du moins que ses mythes fondateurs, comme le récit de la Genèse, l'imaginaire du poison est fait de représentations cumulées au fil du temps. Les lettres de dénonciation confirment la persistance de fantasmes anciens, tout en montrant leur renouvellement. Peut-être pourrez-vous, tout en vous occupant de l'affaire Nozière, découvrir les marchands des poisons qui font tant de victimes chaque année, écrit un homme au commissaire de police, en affirmant que Violette, membre de la bande d'Atlan, vend des stupéfiants dans les cabarets à la mode de Montmartre et de Montparnasse. La lettre évoque la poudre blanche, expression utilisée naguère pour désigner les mixtures des sorciers ou pour désigner l'arsenic, et qui sert ici à désigner à la fois le somnifère écrasé par Violette que la cocaïne. L'affaire, on le voit, profite du renouvellement de l'imaginaire du poison, qui finalement a migré depuis les cours princières et les campagnes profondes vers les villes, avec le péril toxique qui fait l'objet de grandes campagnes de presse. Et il s'agit, sur fond d'obsession de la prostitution dans les grandes villes, de lutter contre la cocaïne qu'on appelle le poison blanc. Des lettres anonymes racontent de sombres histoires de complicité ténébreuse, mêlant poison, magie, crime et hypnose. Le personnage du pharmacien s'inscrit dans cet imaginaire, sachant que les frontières sont floues entre poison et drogue, tous deux qualifiés de substances vénéneuses dans les nomenclatures des chimistes. Mais l'imaginaire de l'empoisonnement, c'est surtout un imaginaire de l'empoisonneuse, le poison passant pour être l'arme du sexe faible. Façonné par les lieux communs sexistes repris par la criminologie, l'empoisonneuse, lâche, machiavélique, séductrice, cupide et adonnée au sexe, est une figure répertoriée de l'imaginaire du crime, contrairement à la figure de la parricide, qui en fait n'existe pas. On peut voir comment le discours social revêt Violette Nozière des habits de l'empoisonneuse que l'imaginaire met à disposition, et du coup ça la transforme en icône de l'infamie au féminin. C'est sur cette figure de l'empoisonneuse que les journaux font leurs gros titres et les complaintes leurs refrains. Par un double processus métonymique qui étend le poison à la personne tout entière, et métaphorique, qui joue sur le prénom de Violette, l'empoisonneuse devient la fleur vénéneuse, selon une expression récurrente dans la presse. Cette Violette aux pétales à peine éclos ne cachait rien moins qu'un aspic malfaisant, attendant son heure pour passer son venin, écrit un journaliste. Le motif traditionnel de la femme venimeuse, fille d'Ève, s'enrichit de la phobie de la syphilis, qui atteint au début des années 30 son point culminant. Violette ayant contracté cette maladie, une chaîne de représentations se tisse par association entre poison, syphilis, mais également drogue et prostitution, pour faire de la criminelle une nouvelle femme fatale qui donne la mort en empoisonnant et en contaminant. Dans le même temps, l'empoisonneuse de 18 ans devient le triste fleuron d'une jeunesse empoisonnée, symbole d'un monde en crise. Violette Nozière, peut-on lire dans un long article de Paris Midi qui est intitulé « Violette Nozière et le mal de la jeunesse ». Violette Nozière restera une des figures les plus représentatives de notre époque troublée. Son nom restera celui d'une étrange fleur vénéneuse dans le bouquet précocement fané de la jeunesse d'aujourd'hui. Étudier le déploiement de l'imaginaire de l'empoisonneuse, c'est enfin envisager ses conséquences juridiques et judiciaires. Et je vais terminer là-dessus. Le crime de Violette Nozière, d'abord qualifié d'assassinat, a été finalement requalifié en empoisonnement, alors qu'il aurait dû l'être de parricide, puisque la règle veut que la préférence aille à la qualification la plus élevée. J'y vois l'impact de la figure de l'empoisonneuse sur les pratiques judiciaires aux prises avec la criminalité des femmes. La qualification finale du crime est dans la logique de l'imaginaire qui a donné à Violette Nozière sa stature criminelle. En outre, le déploiement de la figure de l'empoisonneuse s'articule au rejet du mobile qu'a énoncé la coupable, c'est-à-dire l'inceste, qui était proprement inaudible. À la fille violée par le père, s'est substituée la fleur vénéneuse. À la parole de Violette Nozière, un imaginaire de la femme infâme, dont la fonction est d'apporter des réponses toutes faites au crime d'une femme. Le cas de l'affaire Nozière montre, je crois, l'intérêt de mettre une affaire judiciaire à l'épreuve de l'imaginaire social. Comprendre le traitement judiciaire d'une affaire, son retentissement comme événement social et l'épaisseur de sens qu'elle a acquise passe par l'étude des fictions, réseaux de représentations, figures et fantasmes qu'elle a mobilisés. C'est une manière d'arracher le crime au genre anecdotique du récit d'affaires judiciaires pour le faire entrer de plein pied dans l'histoire. Mais ce cas montre aussi l'intérêt de mettre l'imaginaire social à l'épreuve d'une affaire judiciaire en soulignant l'apport d'une analyse intensive de type micro-historique pour étudier finement ses configurations contextualisées et ses logiques. Je vous remercie.